BFM, le journal Hasmik Papadian.
Bonjour à tous. Roupen Vartanian suspend sa grève de la faim. L'ancien ministre d'État de l'Arsar, détenu en Azerbaïdjan depuis septembre, avait cessé de s'alimenter le 5 avril dernier pour alerter sur son sort et celui des autres ex-dirigeants de l'Arsar arrêtés comme lui au moment de l'annexion du pays par Bakou. Une grève de la faim qui a débuté dans le plus grand secret, car Roupen Vartanian avait dès le premier jour été interdit de toute communication avec ses proches, qui ont découvert la situation samedi dernier, c'est-à-dire au bout de 2 semaines. Ils ont alors obtenu de lui parler au téléphone et découvert qu'il avait été placé à l'isolement sans une surveillance médicale appropriée à son état, qui se dégradait de jour en jour. L'alerte a alors été lancée auprès de la communauté internationale et lors des commémorations du 24 avril, le sort de Roupen Vartanian ainsi que celui des autres otages aux mains de l'Azerbaïdjan a été largement évoqué dans les prises de parole à travers l'ensemble de la diaspora. C'est sans doute grâce à cette forte mobilisation que Roupen Vartanian a été autorisé hier à parler à sa famille, qui a réussi à le convaincre de mettre un terme à sa grève de la faim en insistant sur la prise de conscience que son action a provoquée dans la communauté internationale, lui faisant part également des appels lancés à l'Azerbaïdjan par de nombreux responsables politiques étrangers. Roupen Vartanian a donc accepté, mais à contre-cœur, précisent ses proches. Cependant, après 21 jours sans s'alimenter, son état de santé, déjà fortement dégradé, risque de se détériorer faute de soins médicaux adéquats, indiquait hier sa famille, qui espère que la pression internationale se maintiendra sur l'Azerbaïdjan pour obtenir sa libération, ainsi que celle des autres otages arméniens détenus arbitrairement par le pouvoir azéri. La colère monte en Arménie face à l'inquiétude que suscite la cession de terres dans le Tavouche. La décision de Nikol Pachinian de céder à l'Azerbaïdjan 4 villages de cette région frontalière a provoqué la panique dans les localités alentours, qui par conséquent, une fois redessinée la frontière, vont se retrouver à quelques mètres à peine de l'Azerbaïdjan et donc à portée de tir, et de surcroît privés d'accès pour certains à leurs champs, pour d'autres aux routes reliant au reste du pays. Les villageois concernés sont mobilisés depuis une dizaine de jours contre cette décision, vivement contestée également par l'opposition parlementaire, mais aussi des représentants de la société civile ainsi que de l'Église. Et ces dernières 48 heures, la contestation a gagné l'ensemble du pays, tout d'abord Yerevan, où les premières protestations ont éclaté lors des commémorations du 24 avril au mémorial de Zeynagapert, où l'on a pu entendre la foule scander « Nikol le traître » ou encore « Nikol le génocidaire ». Puis, en fin de journée, des rassemblements spontanés se sont produits dans la capitale, destinés là encore à exprimer l'inquiétude face à cette menace pour la souveraineté de l'Arménie que constitue cette cession territoriale à l'Azerbaïdjan. Des manifestations populaires qui ont été très violemment réprimées par la police, qui s'en est pris à tous ceux qui passaient par là, y compris à ceux qui ne prenaient pas part au rassemblement, jusqu'aux journalistes empêchés de couvrir ces événements. Les manifestations se sont poursuivies hier à Yerevan, toujours aussi rapidement et fermement dispersées. En région, en solidarité avec les habitants du Tavouche, qui, eux, bloquent la route reliant Yerevan à Tbilissi, des habitants ont dressé des barrages avec leurs véhicules sur les autoroutes reliant la capitale à Gyumri, à Mardouni et à Merri. Enfin, au nombre des actions lancées pour dénoncer l'accord conclu entre Yerevan et Bakou sur la délimitation de la frontière qui pour l'heure s'annonce totalement défavorable à l'Arménie, des étudiants du village de Baranis dans le Tavouche ont lancé un boycott des cours pour défendre nos terres, indiquent-ils dans leur communiqué. Cette première vague de manifestations laisse présager une mobilisation de plus en plus forte parmi la population qui commence à prendre conscience du risque qui pèse sur le pays suite à cette cession de villages frontaliers dans le Tavouche. La réaction du pouvoir face à ce mouvement populaire naissant ne laisse rien présager de bon au vu de la réponse particulièrement ferme apportée par les autorités à ces premières protestations. Nikol Pachinian semble bien décidé à aller au bout des décisions qu'il a prises, et ce, même si elles vont à l'encontre de la Constitution. Il est en effet stipulé dans ce texte que tout changement territorial doit passer par un référendum. C'est pourquoi une plainte vient d'être déposée à l'encontre du Premier ministre par un juriste et un militaire en retraite qui accuse Nikol Pachinian de trahison et de violation de l'intégrité territoriale de l'Arménie en raison donc de cette cession de 4 villages à l'Azerbaïdjan qui n'a pas été acceptée, qui n'a pas été soumise à référendum. Aucune chance cependant que cette démarche aboutisse, mais elle témoigne de l'illégalité de la décision du Premier ministre, ce qui renforce un peu plus l'inquiétude pour l'avenir. Il est pourtant encore temps de préserver l'avenir de l'Arménie, contrairement à celui de l'Assar, qui a fait l'objet d'un rapport du département d'État américain qui dresse la liste des violations des droits de l'homme commises par l'Azerbaïdjan à l'encontre de la population arménienne. Il est ainsi rappelé les attaques régulières de l'armée azérie sur les infrastructures civiles tout au long de l'année 2023, puis le blocus de 9 mois qui s'est achevé par l'offensive de septembre qui a entraîné l'annexion par l'Azerbaïdjan de l'Assar et l'exode de la totalité de sa population arménienne. Surtout, le département d'État américain rappelle un rapport sur les droits de l'homme qui faisait état des traitements cruels, inhumains et dégradants et des tortures que les soldats azéris ont fait subir aux soldats arméniens. Enfin, le rapport fait état de 42 Arméniens portés disparus depuis les combats de septembre dernier, dont 12 civils, qui se sont ajoutés à ceux des guerres précédentes, 761 pour celle du début des années 90, 195 après celle des 44 jours de 2020, soit au total environ 1000 personnes dont le sort reste inconnu et pour certains depuis 30 ans. Un hommage pour terminer ce journal à notre collaborateur Albert Assatourian, décédé en début de semaine à l'âge de 90 ans. Avant d'émigrer en France, Albert Assatourian, né en Géorgie, avait été directeur du théâtre de Tiflis et directeur des programmes de la radio arménienne de cette ville. Dramaturge et même comédien lui-même, Albert Assatourian a partagé son immense érudition avec les auditeurs d'IPFM pendant de longues années à travers ses émissions sur le théâtre, bien sûr, mais aussi sur les compositeurs et la musique classique dont il était également passionné. La direction et l'ensemble des collaborateurs de notre radio présentent leur plus sincère condoléance à la famille d'Albert Assatourian et tout particulièrement à sa fille Narine, qui était l'épouse de notre confrère Bache Borossian, décédé il y a 12 ans déjà. Les obsèques de Baron Assatourian auront lieu lundi prochain à 14h30 à l'église arménienne d'Alfortville, rue Comitas. Voilà pour l'actualité de ce jour. Merci de votre attention et bonne journée.
Cette année-là, l'Arménie sur IPFM. Cette année-là, l'Arménie, présentée par Frédéric Galbis Manoukian.
Aujourd'hui, l'année 1993, c'est la 25e émission. Bonjour à tous. En 1993, l'Arménie se trouvait dans une situation complexe et difficile, marquée par les séquelles de son indépendance récente, survenue en 1991, après la dissolution de l'Union soviétique. Le pays était confronté à de multiples défis politiques, économiques et sécuritaires, j'en ai parlé longuement dans les précédentes émissions. Mais reprenons point par point. Sur le plan politique, l'Arménie était en pleine transition vers un système démocratique après des décennies de gouvernance sous le régime soviétique. Des tensions politiques internes et des luttes de pouvoir étaient perceptibles entre les différentes factions et partis politiques, souvent exacerbées par des problèmes socio-économiques persistants. Malgré cela, l'ancien président du comité Halabar, Levonter Petrosyan, a été élu président de la République. Il s'est imposé assez facilement par son charisme et son leadership. Du point de vue économique, l'Arménie faisait face à une crise profonde. La transition vers une économie de marché était laborieuse et douloureuse, entraînant une inflation galopante, un chômage élevé et une pauvreté généralisée. Les ressources limitées du pays étaient également mises à rude épreuve par les conséquences de la guerre du Karabakh, notamment les réfugiés internes et les besoins en reconstruction. il y a une pénurie généralisée de tous les biens de consommation courante, ainsi que des ressources énergétiques, l'Azerbaïdjan imposant un blocus énergétique à l'Arménie. Mais il y a également la guerre au Karabakh. Sur le plan sécuritaire, l'Arménie était confrontée à une menace directe avec ce conflit qui se déroulait à sa frontière avec l'Azerbaïdjan. Les combats dans la région du Haut-Karabakh ont non seulement engendré des pertes humaines et matérielles, mais ont également alimenté les préoccupations sécuritaires nationales et internationales concernant la stabilité de la région. La guerre du Haut-Karabakh en 1993 reste une période emblématique et déterminante dans l'histoire contemporaine du Caucase. Ce conflit a été bien plus qu'un simple affrontement armé. Il a été le théâtre de rivalités historiques, ethniques et politiques complexes entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, déclenchant une série d'événements qui ont façonné le paysage politique de la région pour les décennies à venir. Et ce n'est pas fini. Dans l'ensemble, l'Arménie en 1993 était un pays en transition, cherchant à se reconstruire après des décennies de domination soviétique et à surmonter les défis économiques et sécuritaires majeurs auxquels il était confronté, tout en luttant pour préserver son intégrité territoriale et sa sécurité nationale dans un contexte régional tumultueux. Nous allons reparler des événements qui ont jalonné cette année 1993 où rien n'est simple, que ce soit par les problèmes internes ou externes au pays. Dans un article signé Yerdig Mancini, on peut lire comment des relations diplomatiques et économiques se sont établies entre Azerbaïdjan et Israël. Cette coopération contre nature entre un État juif et un autre musulman va coûter très cher à l'Arménie, mais surtout au Karabakh. Ces informations sont-elles vraies ou fausses? Elles se doivent d'être vérifiées. Cependant, elles sont suffisamment graves pour que l'État d'Israël précise officiellement sa position. Voici la genèse de cette coopération. Le 17 novembre 1992, les lecteurs du Figaro pouvaient lire sous la plume de Pierre Rousselin « L'État hébreu va établir des liens diplomatiques avec l'Azerbaïdjan musulman qui désire instaurer une coopération militaire. » Voici les sources produites par le journaliste. Les responsables azerbaïdjanais comptent sur Israël et l'influence de l'État juif en Occident pour défendre leur propre point de vue sur le conflit. L'agence juive joue le jeu à fond. Un fonds d'aide au Nagorno-Karabakh, administré par le ministère de la Défense à Bakou, a été constitué par la communauté juive locale. « Nous sommes très intéressés par une coopération militaire avec Israël », confie le président Elchi Bey. « Les Israéliens disposent d'une très bonne technologie et produisent des armes excellentes ». Une demande officielle a été adressée par Bakou à Jérusalem. Officiellement, la réponse a été négative. La situation n'est sans doute pas encore assez mûre. D'ores et déjà, interrogé par France Arménie, l'ambassade d'Israël à Paris a démenti. En France, un des responsables de la communauté juive, le docteur Marc Aron, a avoué être très surpris et étonné par les affirmations du journaliste du Figaro. Renseignement pris auprès de M. Eldan, ministre plénipotentiaire, le docteur Aron affirme qu'il s'agit d'un article fantaisiste et provocateur et la provocation proviendrait des milieux trotskistes. Il rappelle qu'Israël ne pratique pas la politique d'ingérence et que l'État hébreu tient à avoir de bonnes relations avec tous les États pour établir des relations économiques bilatérales. Questionné sur sa perception personnelle du problème du Karabakh, il estime que le peuple arménien est injustement persécuté et n'a pas été assez aidé par l'ex-pouvoir soviétique. Il pense cependant que la solution au conflit naîtra du dialogue. Parce que le sujet est sérieux, parce qu'il en va de la sécurité de nos compatriotes de l'Artsakh, il est évident que les Arméniens de France seront attentifs au démenti que doit faire, d'après le docteur Aron, le ministère des Affaires étrangères israélien, ainsi que le comité du CRIF courant janvier, dans différents journaux nationaux, chacun pour ce qui le concerne. Mais il faut aussi rappeler que la Géorgie et l'Azerbaïdjan sont bien les deux républiques de Transcaucasie où l'État hébreu s'est appliqué à organiser sa présence. En effet, Israël a multiplié les initiatives dans le cadre du dégel de ses relations amorcées en 1988 avec l'URSS. Des organisations sionistes comme l'Agence juive ou la WIZO, la Women International Zionist Organization, ont reçu comme mission d'intervenir sur le territoire de l'URSS. Dès 1989, par le biais d'échanges culturels, les premiers contacts sont établis. Le ministre géorgien de la Culture se rend à Jérusalem pour y signer un accord et son homologue israélien est invité à Tbilissi. Les Géorgiens émettent aussi le vœu d'ouvrir une représentation permanente en Israël. Quant à l'Union mondiale des étudiants juifs, elle ouvre sa première branche soviétique à Tbilissi. Du côté de l'Azerbaïdjan, le ministre de la Culture, Polat Bulbul, est invité en juillet 1989 à se rendre à Haïfa. Outre les échanges classiques, le ministre azéri a proposé le jumelage de Baïkou avec Haïfa. Depuis, on le voit, la politique d'Israël a poursuivi son chemin et, semble-t-il, a fait son choix. On a beaucoup parlé de l'Arménie et de sa politique tout au long de ces dernières émissions. On va voir maintenant comment notre encombrant voisin, l'Azerbaïdjan, a vécu la transition du passage de l'État soviétique vers l'indépendance. C'est Jean-Noël Koumjan qui raconte. L'Azerbaïdjan a vécu sa révolution en 1992 avec l'arrivée au pouvoir du Front Populaire d'Azerbaïdjan, le FPA. La guerre du Karabakh, notamment la chute de Khojalou, a été fatale au président élu Ayaz Mutalibov, installé à la direction du pays par les autorités centrales soviétiques en janvier 1990. Dès le 18 mai, date de l'élection à la présidence du Parlement d'Isa Gambarov, le numéro 2 du FPA, on assiste à une évolution rapide vers l'instauration d'un régime autoritaire. Le Parlement, fidèle à Mutalibov, est contraint à l'autodissolution. Le Conseil national, dominé par le FPA, dirige dès lors le pays. Les élections présidentielles du 7 juin amènent au pouvoir Aboulfaz Echibey, le président FPA, avec 59% des voix contre 33% à Nizami Souleymanov de l'Union de l'Intelligentsia Azeri Démocratique. L'élection d'Echibey a été le signal de la grande offensive contre le Karabakh dès le 12 juin qui a abouti à l'occupation du nord du Karabakh. Après cette phase glorieuse, la guerre s'est cependant de nouveau enlisée avec de cuisants revers militaires dans le corridor de Lachin et le district de Martouni. Sous la conduite d'Echibey, l'Azerbaïdjan s'installe dans la sphère d'influence turque après le pro-russe Mutalibov. Le Conseil national a ainsi rejeté la ratification du traité d'adhésion à la CEI le 6 octobre. Rupture institutionnelle, mais non totale, puisque Echibey a conclu un traité d'amitié, de coopération et de sécurité avec la Russie peu après, poussé par des intérêts économiques mais aussi politiques. L'usure de la guerre qui a fait la perte de Mutalibov pourrait bien aussi frapper le FPA. La situation économique difficile, l'accroissement des dépenses militaires qui grèvent le budget du pays, l'agitation sociale, la question des réfugiés, la contestation de la guerre, autant de problèmes que doit affronter le pouvoir en place. L'opposition est muselée et réprimée, notamment par les forces spéciales du ministre de l'Intérieur, Iskender Hamidov, un nationaliste panturquiste pur et dur. Souleymanov, l'adversaire d'Echibey aux élections, dissout son parti en octobre. Dans le même temps, on assiste à la création de partis extrémistes et à la renaissance en août du parti Moussavat qui avait dirigé l'Azerbaïdjan en 1918. Ce dernier est proche idéologiquement du FPA, son président étant Isa Gambarov. S'agit-il d'une scission au sein du FPA ? En fait, cela ressemble plus à un alibi démocratique visant à maintenir la fiction du pluripartisme dans un État entièrement sous la coupe du Front Populaire. Le seul qui résiste est Heydar Aliyev, le père de l'actuel dictateur, ancien membre du Politburo du RSS et président du Parlement du Nakhitchevan. Le FPA, par les troupes du ministère de l'Intérieur, a tenté de le détrôner de son fief du Nakhitchevan le 24 octobre, mais a échoué, Aliyev conservant un large soutien populaire dans sa république. Malgré ses ressources pétrolières, l'économie azérie est au bord de l'asphyxie. Le choix de la guerre en est la cause principale. La politique du FPA pourra-t-elle longtemps faire abstraction de cette situation qui mène peu à peu le pays au désastre? Mais ça, comme on dit, c'était avant. Les choses vont s'arranger par la suite sous la conduite des Aliyev père et fils. Cela ne va pas faire les affaires de l'Arménie. Le titre en première page du journal de février est alarmiste. L'Arménie dans la faim et le froid. Le peuple se débat contre les effets du blocus. Pour y être allé 2 mois auparavant, en novembre 1992, en mission avec le docteur Michel Chagnan et bon nombre de membres de l'UMAF, je puis témoigner de la véracité de ces faits, encore que nous fussions basés à Vanadzor et non dans la capitale, mais la situation était identique dans tout le pays. Il s'agit là du témoignage de Gayanel Tchakarian, recueilli par Almast Karekian. Cet article est assez long, mais je pense vous le livrer quasiment en intégralité, tant il décrit la situation dramatique à laquelle nos compatriotes ont dû faire face. Car ici, en Occident, nous sommes loin d'imaginer les difficultés qu'il y avait de vivre, ou plus exactement de survivre, dans de telles conditions. Les réfugiés arméniens rescapés des exactions azéries ont trouvé abri à Yerevan, mais pour subir un siège aussi terrible que destructeur, car annonciateur d'une mort lente. Pénurie de gaz et de carburant, donc impossibilité de circuler. Les rues autrefois bruyantes du trafic des voitures et des bus sont désertes. Le métro ne fonctionne que de 7h à 19h quand il y a de l'électricité. Les ambulances n'ont pas d'essence pour secourir les malades. Sur 22 hôpitaux à Yerevan, 3 sont encore en mesure d'accueillir des patients et une seule maternité est ouverte. Les familles des malades leur apportent quotidiennement leur nourriture, car les approvisionnements sont quasi nuls. Moins de 10% de la population a conservé son emploi dans des usines restées ouvertes fin janvier. En juillet 1992, on comptait 40% des entreprises en activité, mais la pénurie énergétique les a réduites seulement à une dizaine qui fabriquent les produits prioritaires. Fonctionnent également les usines à pain. Les quelques privilégiés qui travaillent se rendent chaque jour à leur travail à pied dans la neige abondante. La température est glaciale à Yerevan. Dans les appartements, on garde son manteau. On prépare le maigre repas avec des gants pour avoir moins froid. Les plus atteints sont bien sûr les vieillards, les malades, les enfants affaiblis par le manque de nourriture et de médicaments. La préoccupation des mères n'est plus de surveiller l'éducation des enfants, mais bien de les tenir au chaud et de les nourrir. Les arbres de Yerevan sont déjà bien décimés et l'Arménie n'est hélas pas une région boisée. De toute manière, il serait impossible d'acheminer ce bois. Les rues de Yerevan sont encombrées d'immondices, pas de service de voirie pour dégager les ordures faute d'essence. Grâce au froid, il n'y a pas encore d'épidémie, mais dès le printemps, il faudrait s'y attendre. À 5 ou 6 heures, il fait déjà nuit à Yerevan. Les rues et les maisons n'ont pas de lumière, ou quelques heures seulement dans certains quartiers. Dans les couloirs des ministères, on se déplace avec une petite torche, et les ministres travaillent à la bougie, emmitouflés dans leurs manteaux. À 5 heures, tout le monde est logé à la même enseigne. Le téléphone ne peut fonctionner sans électricité, seules quelques lignes reliées aux satellites sont encore disponibles. Quand vous voyez une queue dans la rue, vous êtes heureux parce que cela signifie que quelque chose se vend. Au marché noir, on trouve parfois du beurre ou du fromage à 800 ou 1000 roubles le kilo. Mais quand vous gagnez un salaire moyen de 3000 roubles, c'est un luxe inouï de s'offrir des laitages ou de la viande. 20 litres d'essence arrivés de Géorgie ou de Russie coûtent entre 8000 et 12000 roubles. Cela dissuade la plupart des gens d'utiliser leur voiture, mais le prix du ticket de métro est passé de 5 kopecks en 1990 à 3 roubles. La ration quotidienne de pain est de 250 grammes par personne et par jour, et chaque jour est une lutte pour la subsistance. Pour survivre, les Arméniens se sont préparés à l'hiver en faisant des conserves tout l'été. Mais les pauvres continuent à s'appauvrir et les riches à s'enrichir. La misère creuse les écarts, mais on constate avec étonnement qu'il n'y a pas d'indigents dans les rues. La générosité et la solidarité orientale s'étendent bien sûr à la famille, mais aussi aux voisins. Visiblement, les Arméniens se soutiennent mutuellement et cette force semble inébranlable. Sans cette puissance de la solidarité humaine, on imagine aisément qu'ils se seraient enlisés dans l'anarchie ou dans la délinquance. On ne peut pas dire que la sécurité soit totale dans les rues de Yerevan. On entend de temps en temps des coups de feu, peut-être de miliciens incontrôlés, mais aussi l'exécution des ordres donnés d'abattre les chiens errants, cela afin d'éviter les épidémies. Aux frontières, la guerre gronde, on entend les bombardements azéris et la population vit la psychose de l'agression. La crise morale est grave et s'ancre profondément. Parmi eux, les étudiants et les jeunes sont les plus désespérés. Leurs universités n'ouvrent que de mai à novembre et ils sentent que leur avenir est bouché. Ils sont conscients de l'indifférence mondiale. L'espoir subsiste dans la diplomatie arménienne pour négocier avec les Azéris, car ils sont conscients qu'ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Jusque-là, il est remarquable de constater qu'on ne prend pas le gouvernement comme exutoire. Cette guerre d'usure, cette mort lente est supportée par les Arméniens solidaires des habitants du Karabakh, victimes des bombardements incessants. Sans cette solidarité, la population aurait depuis longtemps écouté les agitateurs avides de voir le gouvernement renversé. Le calme règne sur Yerevan, mais pour combien de temps? Fin du témoignage. Cela nous fait penser à ce que l'ont dû subir les habitants du Karabakh en 2023, lors du blocus de près de 10 mois du corridor de la Chine, avec les conséquences que l'on sait. Et encore une fois, personne n'a bougé comme en 1993. L'Arménie est vraiment seule, mais est-ce que ses dirigeants actuels ne sont pas en grande partie responsables de cette solitude ? Dans la série « Je parle pour ne rien dire, mais j'essaie quand même de sauver la face », François Mitterrand, qui est censé être un ami de l'Arménie, est passé maître dans l'art de manipuler les mots pour se donner bonne conscience, tout en sachant que ses propos ne seront pas suivis d'effets, ou du moins qu'ils ne seront pas contraignants. En réponse à la demande d'aide adressée le 7 décembre 1992 par le président arménien, cela au pays du monde entier, François Mitterrand a indiqué que dans une lettre datée du 6 janvier, la France était prête à fournir une aide humanitaire à l'Arménie. Le président français a souligné que pour mettre fin au blocus économique de l'Arménie, une solution politique était nécessaire. François Mitterrand a informé le président Der Petrosyan sur le fait qu'il avait personnellement attiré l'attention du président et des autorités turques sur la nécessité de normaliser le fonctionnement des voies de communication de l'Arménie avec les autres pays. Le président Mitterrand a conclu en affirmant qu'il ne doutait pas que l'Arménie trouvât en elle la force nécessaire pour sortir de cette grave situation et que le peuple arménien pouvait s'appuyer sur la sympathie et l'attention de la France. Petit commentaire, je suis certain que lorsque les responsables turcs ont reçu le message du président français, celui-ci est allé directement à la poubelle. D'autre part, ce ne sont ni la sympathie, ni l'attention de la France qui vont lever le blocus imposé à l'Arménie, mais il est vrai qu'avoir la sympathie de François Mitterrand, c'est un don inestimable dont l'Arménie ne s'est pas encore remise devant tant de générosité. Malheureusement, nous avons encore une fois la preuve de l'immaturité politique du gouvernement arménien, car la crise vient de rebondir avec le limogeage du Premier ministre et du gouvernement par décret du président Levon Der Petrosyan. Korsov Aroutounian, le 5e Premier ministre en 3 ans, était venu présenter le projet de budget de la République d'Arménie qu'il avait mis au point avec ses différents ministres. Milan Amtablian raconte que le budget avait été contesté par les députés. La surprise est venue du Premier ministre lorsqu'il a déclaré, au cours de la discussion, qu'il n'était pas partisan de son projet. Incohérence que d'aucuns n'ont pu s'expliquer à Yerevan dans un premier temps. Levon Der Petrosyan a donc dû se séparer de Korsov Aroutounian, Premier ministre qu'il avait désigné dans un choix qui, à l'époque, avait été particulièrement décrié. La difficulté de la vie politique en Arménie tient dans un parlement où les députés ne semblent pas à la hauteur des enjeux du pays et un premier ministre qui devient de plus en plus introuvable pour les Vander Petrosian. Il semble que le président arménien n'ait plus que deux voies. Constituer un gouvernement d'union nationale qui redonne, peut-on l'espérer, un souffle nouveau au pays ou poursuivre un pouvoir solitaire qui ne mène nulle part. Pour cela, il faut attendre le résultat des entretiens que le président a engagés avec les partis politiques. Le 5 février, le peuple s'est manifesté devant le palais présidentiel. Une foule de 100 000 personnes a réclamé des explications sur la politique suivie, ses options et l'avenir du pays. Le principal problème pour l'Arménie est toujours son absence de constitution. Levante Petrosyan dirige le pays sans contre-pouvoir ni contrôle. La nomination de Kharant Bagration comme nouveau premier ministre ne sera qu'une étape de plus dans cette crise qui mine le pays depuis 2 ans au moins. Car en instituant un régime ultra-présidentiel, Levante Petrosyan a mis en place un système politique où rien n'est venu entraver ses décisions essentielles ni son action et où ses ministres récalcitrants ont été dirigés fermement vers la sortie. De ce fait, le président apparaît comme le premier artisan et le premier responsable de la situation actuelle. Milan Antablian écrit que le président peut difficilement se soustraire aux critiques d'un bilan qui est sombre sur les questions vitales. L'économie s'est désorganisée sous l'effet de l'éclatement de l'URSS, du blocus, mais aussi des mesures économiques qui ont profité aux réseaux parallèles. Qu'il s'agisse de l'énergie ou de la défense nationale, les décisions de correction des erreurs passées ont été prises tardivement. Face à ce bilan, Levante Petrosyan se refuse toujours à présenter un projet constitutionnel digne de ce nom. C'est pourtant, de toutes les questions qui se posent, la plus simple à résoudre, car elle ne dépend que des Arméniens eux-mêmes. Le pouvoir présidentiel d'aujourd'hui annonce-t-il un pouvoir ouvertement personnel ? À Yerevan, le débat constitutionnel s'oriente déjà vers une contestation directe du régime. Les appels de l'opposition parlementaire pour donner à la République des institutions au pouvoir plus équilibré sont légitimes et vont dans le sens de l'intérêt général du pays. Il ne faudrait pas que l'entêtement d'un seul homme ne réduise à rien les quelques chances qui restent encore à l'Arménie pour s'éviter une crise intérieure majeure. L'Arménie n'est pas encore dotée d'un texte constitutionnel unique, loi suprême de la République qui organise l'État et son régime, et avec lesquelles les lois ordinaires se doivent d'être compatibles. L'opposition arménienne la réclame à cor et à cri face à un exécutif qui fut peu pressé depuis 1990 de présenter un projet global. C'est chose faite maintenant puisqu'un projet de constitution a été présenté par le pouvoir et que son adoption est espérée pour le printemps. Ce projet confirme la mise en place d'un pouvoir présidentiel fort face à un parlement faible. Il est de ce point de vue décevant car il amplifiera, s'il est adopté, le malaise politique qui perturbe durablement le pays. Dans une démocratie, plus le pouvoir exécutif est doté de pouvoirs étendus, plus la représentation nationale, c'est-à-dire le parlement, doit avoir les moyens efficaces de contrôler l'action gouvernementale. Rien de tel dans ce projet de constitution qui conserve donc en totalité la contradiction entre légitimité présidentielle et légitimité parlementaire qui bloque la vie politique du pays depuis 1 an. Ce projet abaisse le Parlement face à l'exécutif, c'est un point commun avec toutes les démocraties occidentales qui souffrent toutes de l'hypertrophie de leur exécutif. Ce n'est pas un hasard si la France s'apprête enfin à redonner un peu plus de pouvoir au Parlement. Et l'on peut regretter que l'Arménie suive le mauvais exemple de l'Occident au moment où celui-ci commence à tirer les leçons de ses excès. On ne peut s'étonner que ce projet soulève l'hostilité de l'opposition parlementaire qui ne travaille pas forcément contre l'État en critiquant ce projet et son mode d'élaboration. Il y a quand même parfois de bonnes nouvelles concernant l'Arménie et la situation au Karabakh. C'est un article de Jean-Noël Kouyoumdjian qui décrit que la percée des forces arméniennes a été phénoménale le 5 février, réveillant le front de Martakert de l'assoupissement hivernal dans lequel il était plongé depuis plusieurs semaines. Les Arméniens avaient tenu bon sur leurs positions enneigées du village de Vank et de Kitchan, alors que face à eux, les Azéris occupaient la majeure partie du district de Martakert et au-delà de Shaumian. Avec l'appui de l'artillerie lourde, de blindés, d'hélicoptères, l'offensive arménienne était lancée avec un but, reconquérir le nord perdu. De nombreux villages vont être repris vers le nord et une dizaine de villages vont être libérés. Les troupes azéries ont tenté de contre-attaquer le 10 février, mais ont été repoussées et ont battu en retraite. Ce sont au contraire les Arméniens qui ont avancé inexorablement. Le reflux des troupes azéries s'est poursuivi, une dernière contre-offensive étant mise en échec. De l'autre côté du Tartar, d'autres villages ont été libérés les uns après les autres. Hatelk, la deuxième localité du district, a été prise après de rudes combats, les forces arméniennes ayant été soutenues dans leurs attaques par les partisans de Shaumian qui, derrière les lignes ennemies, ont coupé la route de Martakert, empêchant tout ravitaillement logistique en munitions et carburant de la garnison assiégée. Occupée depuis juillet 1992, la majeure partie des positions militaires les plus importantes du district est à présent entre les mains des Arméniens. Mais les combattants n'ont qu'une idée fixe, reprendre Shaumian et Getachen après Martakert qui ne serait déjà plus qu'un fruit mûr. Il faut espérer, car les combattants du Karabakh ont rarement échoué dans leurs objectifs. Affaire à suivre. C'est donc tout pour aujourd'hui. Si vous avez manqué le début de cette émission, si vous voulez la réécouter, sachez qu'elle sera rediffusée vendredi prochain à 13h. Si vous écoutez AFPFM sur Internet, sur l'appli pour smartphone ou bien encore en DAB+, sachez qu'elle sera également rediffusée toujours le vendredi à 18h. L'émission ainsi que les 24 précédentes seront disponibles en podcast dès lundi matin sur le site de la radio, radio-afm.com, dans la rubrique Programme, dossier, cette année-là, l'Arménie. J'espère donc vous retrouver dimanche prochain, toujours sur AFPFM, la radio arménienne de Paris, 99.5 sur la bande FM, mais aussi en DAB+, ou bien encore sur Internet et l'appli AFPFM disponible pour vos smartphones, cela à partir de 12h15 pour la suite de notre série d'émissions historiques contemporaines consacrées à l'Arménie. Je vous parlerai de la suite des événements de l'année 1993. Et en attendant le plaisir de vous retrouver, je vous souhaite de passer une excellente journée. À très bientôt.
خوست زگان داشت ببین ارکای سارن بومین آنما چلی کمک ندی ارتون با هبانه مونه آنما چلی کمک Artan bahar bana
saçları ki. Martmanes, martmanes, imaç geri luysanes. Biraz anne sana bolcan bolca saçları ki. Martmanes, martmanes, imaç geri luysanes. Biraz anne sana bolcan bolca saçları ki. Oh,
Հարավային ուսանողական հավաքը Youthlinks Europe դերի միդյունենա 3-4-5 մայիս 2024-ին Իտալիո Վենետիկ քաղաքի մեջ։ Աշխարհի զանազան անգույններ են, հատկապես Եվրոպայեն 18-28 տարեկան հայ երիտասարդներ՝ միդի համախմբվին եւ երորյա մշակութային հագեցած ճապատավերջման։ Մասնակցության սակ 250 եվրո։ Ավելյալ տեղեկություններու համար կարելի է այցելել ընկերային ցանցերու հետևյալ հասցեներ. Instagram Youthlinks Europe, Facebook Amaskayin Youthlinks Europe, site web www.youthlinkseurope.org. Աջաբարե եւ արցանակը։
IPFM à votre service pour accompagner la promotion de votre entreprise, de votre commerce ou les initiatives de votre association, IPFM se tient à votre disposition. Diffusée sur Paris, Marseille et Nice, notre antenne vous permettra d'atteindre un large public auquel il convient d'ajouter les internautes qui nous suivent en direct partout en France, mais également à l'étranger via notre site internet. Prenez contact avec nos services qui vous réserveront le meilleur accueil et qui vous proposeront la formule la mieux adaptée à vos projets et à votre budget. Appelez le 01 43 53 19 90, 01 43 53 19 90 ou laissez-nous un message sur hyperadio@wanadoo.fr et nous ne manquerons pas de vous recontacter.